Bienvenue dans Négatif, le podcast d'entretien à l'écoute des créateurs et créatrices d'images et de sons. Je suis Thibaut Elluy, étudiant en cinéma, et j'ai décidé de donner la parole à des personnes dont le travail artistique ou créatif m'a marqué, et dont je veux découvrir les coulisses. Toutes les deux semaines, je vais partir à la rencontre d'un nouveau métier dans le cinéma, le son, la photographie, la musique ou l'art contemporain. Après avoir découvert dans le premier épisode l'engagement esthétique et politique du directeur de la photographie Jonathan Eckbourg, je vais discuter aujourd'hui avec Sébastien Calvé, photographe de presse. Après des études de cinéma et de photographie, il a couvert en tant que reporter la vie politique française pour le journal Libération pendant 15 ans. Campagne électorale et coulisses du pouvoir ont été son quotidien. Son travail s'est également orienté vers le documentaire, toujours politique, l'édition de livres numériques, ou encore la communication pour des grandes entreprises ou la mode. En 2015, avec d'anciens journalistes de Libération, il a fondé le site d'information lesjours.fr et supervise aujourd'hui les photographies de ce journal qui sont au cœur de son projet éditorial. Bonjour Sébastien Calvé.
Bonjour.
Merci de participer à ce deuxième épisode de Négatif.
Merci à vous.
Tout d'abord, j'aimerais savoir quelle est votre définition du métier de photographe.
C'est une question difficile pour démarrer. Un photographe, c'est quelqu'un de très libre, puisqu'il travaille, en tout cas un photojournaliste, un photoreporter, il travaille seul. Et la photographie est un métier absolument extraordinaire qui permet d'aller dans des endroits et de rencontrer des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés, où on ne serait jamais allé si on n'avait pas eu un appareil photo autour du cou. Donc moi, c'est la définition essentielle qui m'a fait choisir ce métier. Et ça n'a pas trop mal fonctionné.
Comme je le disais, la photographie a une place importante sur le site lesjours.fr.
Ouais.
C'est un journal payant en ligne qui propose de suivre l'actualité comme si elle était composée de séries, avec des saisons et des épisodes, ce qui permet un suivi d'une actualité chaude ou plus froide. Comment avez-vous mis en œuvre ce projet éditorial du site avec une place de la photographie aussi importante ?
Alors tout démarre, lesjours.fr c'est un projet qui a démarré presque au sein de Libération, au début 2015, au moment où Patrick Drahi est en train de racheter Libération, il y a un projet de reprise du modèle éditorial du journal par les salariés eux-mêmes. Et donc on crée des groupes de travail où on réfléchit au journalisme qu'on voudrait faire, le type de journalisme qu'on voudrait faire. Et donc il y a des idées qui ressortent comme ça sur l'offre qu'on peut proposer au lecteur. Patrick Drahi arrive et il se trouve que tous ces projets ne sont pas retenus. Avec des collègues de l'époque du journal, on décide de quitter Libération et de partir monter un média indépendant. Et ça va devenir lesjours.fr. Alors ce média, on l'a tout de suite voulu sur le web, tout de suite indépendant, sans pub, et sur le modèle de l'abonnement. Et évidemment, sur un modèle éditorial qui correspond à ce qu'on avait dans la tête, c'est-à-dire faire de l'information, mais un petit peu sur le modèle des séries télé, faire une sorte de Netflix de l'information.
Et donc, quel a été votre rôle dans la création de la partie photographie de ce journal ?
Alors moi, ma venue, elle est pour coordonner la photographie au sein du site avec une stratégie qui est très claire, c'est de faire un site d'information, mais en utilisant et en ne travaillant qu'avec des photographes ou des collectifs ou des agences indépendantes. Donc, on ne fait pas appel à de grandes agences qu'on appelle télégraphiques, type AFP, AP ou Reuters, qui sont des agences qui inondent les marchés aujourd'hui avec des correspondants partout dans le monde entier et qui vendent des abonnements en fait aux médias. Alors, c'est très bien, c'est des contenus de bonne qualité. Le problème, c'est que comme tous les médias mainstream se fournissent auprès de ces agences par un aspect pratique et économique, on retrouve un petit peu les mêmes images un peu partout sur tous les médias. Donc nous, on a voulu changer de pied, avoir une autre stratégie et se tourner vers un ensemble de photographes indépendants qui, avec le numérique, sont présents partout dans le monde et sont en capacité de faire des reportages et de les envoyer très facilement par voie numérique. Donc moi, mon travail, c'est de partir des besoins qu'on a d'images, de sujets, parce que j'ai une rédaction de journalistes qui écrivent et qui sont force de proposition de sujets. Et à partir de ces sujets-là, soit trouver des images qui correspondent, qui existent déjà, soit trouver des photographes avec qui on va collaborer et qu'on va mettre en commande et qui vont travailler pour nous, pour travailler ces sujets, faire ces reportages et avoir un travail documentaire en train de se faire.
comme c'est un site qui propose des séries, donc il y a un suivi avec plusieurs articles. Ouais. Est-ce qu'il y a un suivi avec des photographes sur l'ensemble de ces saisons? Et si oui, comment se passe la collaboration entre le journaliste, vous et le photographe?
Oui, alors l'idée justement, c'est de travailler sur la longueur et donner le temps aux photographes ou aux rédacteurs ou rédactrices d'avoir le temps de travailler. Donc nous, on travaille parce qu'on appelle des obsessions. Une obsession, c'est un ensemble éditorial d'articles que nous on appelle épisodes. C'est un ensemble, c'est comme une série. Et cette série, elle est guidée par un sujet. Donc ça peut être soit un sujet plus ou moins froid, alors sans mauvais jeu de mots, là par exemple on a une obsession qui s'appelle Pole Position, qui est le travail de deux journalistes, Axel de Russet à la photographie et Leïla Mignano à l'écriture, et elles sont allées dans un village le plus septentrional de la Norvège, qui est le dernier point avant le pôle Nord, le dernier village habité. Et elles sont allées en cet endroit-là parce que c'est un des premiers endroits qui subit les problèmes de réchauffement climatique. Donc à partir de là, on a démarré une obsession avec elles, où elles sont allées faire du reportage, mais on travaille et on découpe leur reportage par épisode, comme ça, photo et texte. Il y a parfois des obsessions plus d'actu, où par exemple, à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, on a demandé à Maïté Dano à l'écriture et à Pablo Chignard à la photographie, d'aller sur un rond-point à Voreppe, en Isère, à côté de Grenoble, de suivre des Gilets jaunes. Et ça fait plusieurs semaines que pour nous, ils y vont régulièrement. Alors c'est un modèle journalistique assez intéressant, puisque tous les deux vont sur ce rond-point ou ailleurs, ils font le reportage, ils rentrent, on publie ce reportage et ils y retournent. Chose qu'on fait assez peu en journalisme. En général, soit on fait du one-shot, c'est-à-dire qu'on va passer une journée, on rentre, on publie le reportage et puis on n'y retourne plus. Soit on passe du temps quelque part, on fait un travail documentaire, on publie et puis on y retourne, éventuellement peut-être au moment d'un anniversaire. Nous, on publie vraiment toutes les semaines des épisodes sur ces sujets-là. Et donc, du coup, il y a un suivi qui est fait autant en écriture qu'en photographie. C'est-à-dire que moi, mon travail, c'est d'assurer aussi, avec le photographe, un suivi de la production. Il va aller travailler le lundi sur ce rond-point. Il va me renvoyer des images. Je vais avoir un regard sur ces images. Et puis, quand il va y retourner le mercredi ou le jeudi ou le vendredi, on va discuter ensemble, le photographe et moi, de savoir les aspects sur lesquels il va travailler en photo et d'autres sur lesquels on se dit bah, là c'est plus la peine de faire des photos de cet endroit là parce qu'on a tout ce qu'il nous faut. En revanche, on sent que peut-être il y a un personnage qui ressort en image ou dans le sujet et qu'il faut peut-être creuser un peu plus autour de ce personnage là donc c'est un vrai accompagnement, que ce soit sur les journalistes écrits ou sur les photographes.
C'est une façon de travailler que vous avez expérimenté grâce à votre expérience en tant que reporter de terrain.
Oui.
Et aujourd'hui, vous continuez à faire des photographies pour le site, mais parfois, ce sont des photographies qui ne sont pas du reportage classique. Il y a par exemple ces photographies d'écran de télévision qui reviennent pour différentes obsessions,
oui.
Qui sont parfois transformées en GIF animé, donc en petites vidéos ou en collage. Pourquoi travailler cette nouvelle forme?
Alors ça, c'est le moment où le projet, où les jours rencontrent mon propre projet personnel et mon propre parcours professionnel. Vous l'avez rappelé, moi j'ai été reporter photographe pendant 15 ans à Libération. Donc j'ai couvert l'actualité politique et sociale de 2000 à 2015 à peu près. Donc j'ai été sur le terrain tous les jours et j'ai produit tous les jours des photos sur l'actualité. Donc j'ai beaucoup fait ça, j'ai beaucoup été sur le terrain. Mais il y a un moment où, en 2015, je me suis dit que ce que je produisais sur le terrain n'avait plus vraiment de sens. Puisque entre 2000 et 2015, le nombre de photographes, de chaînes info, de télé, de caméras, de micros, a décuplé énormément. Pour plein de raisons. Pour l'arrivée des chaînes info, à cause de l'accélération du web. Donc ça a multiplié les gens sur le terrain, ça a multiplié les capacités d'enregistrement des événements d'actualité politique ou sociale. Et donc il y a un moment où je me suis dit, moi personnellement en tant que photographe, que je tournais un peu en rond. Et que finalement ce qui était intéressant à travailler, c'était pas tellement ce qui se passait sur le terrain, mais que peut-être c'était ce qui arrivait sur le récepteur, c'est-à-dire sur les écrans. Et donc j'ai commencé au moment où j'ai travaillé pour les jours à aller refotographier ce qui se passait sur l'écran, à travailler ces images-là, à les modifier, à les triturer un peu dans tous les sens et en donner ma propre vision. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant en tant que photographe ou artiste de travailler, c'est ce qui se passe sur cet environnement d'images dont on est abreuvé, que ce soit sur les écrans des smartphones ou des télévisions ou des écrans de laptop. Le bombardement d'infos, des chaînes d'infos en continu avec ce direct permanent, avec la typographie omniprésente, les bandeaux qui répètent une information comme ça en boucle, je trouve qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer pour tous les spectateurs et que les artistes doivent s'emparer de ces phénomènes-là pour essayer de les expliquer et en tout cas de les mettre en avant.
Alors du coup, j'invite tous ceux qui nous écoutent à aller regarder votre site, sébastiencalvet.com, où vous pouvez découvrir le travail avec des archives qui datent parfois d'il y a plus de 10 ans, mais aussi des travaux des dernières semaines, notamment ceux dont on vient de parler, où vous avez fait des collages, par exemple sur les gilets jaunes. Mais on voit aussi que vous êtes un photographe qui reste actif et qui prend toujours des photos avec un appareil photo.
Toujours.
sur le terrain, puisque vous avez couvert des événements politiques récents, par exemple le congrès du Parti communiste. Alors, est-ce que c'est important de retourner sur le terrain, même quand on est responsable d'un site d'info ?
Oui, moi je le crois. Alors, c'est une position qui n'est pas forcément partagée et qui est un peu particulière, mais moi, même si aujourd'hui je suis éditeur photo aussi, c'est-à-dire que je choisis les photos des autres pour un journal sur le web, donc c'est un boulot où je passe plus de temps derrière un bureau qu'avant, mais je suis et je resterai photographe toute ma vie. Donc je ressens le besoin, même si je le fais moins qu'avant, d'aller sur le terrain. Ne serait-ce que pour continuer à comprendre comment marchent les médias sur le terrain, quelles difficultés ils rencontrent. Ça permet aussi, quand on commande un reportage à un autre photographe, de savoir ce qu'on peut lui demander ou pas. Donc c'est bien de retourner sur le terrain régulièrement. Moi j'en ai besoin personnellement parce que j'ai besoin de faire des images et de me confronter à ça. Je pense que c'est assez important et j'ai besoin aussi de ce double travail à la fois sur le terrain, de se confronter vraiment à ce travail-là de reportage, assez classique, qui pour moi est primordial, et aussi de ce travail de ce qui arrive sur les écrans. Voilà, ça me permet de comprendre à quel moment ça déconne, presque, je dirais. C'est-à-dire que à quel moment on est sur le terrain, on va faire des images sur ce qui se passe du réel, et comment il y a un acte de transformation sur la manière dont cette image va être reçue sur l'écran par les spectateurs de ces images. Alors, j'ai pas toutes les réponses, hein, évidemment, parce que c'est des phénomènes très complexes. Mais j'ai besoin d'avoir ce double mouvement pour travailler mon image et travailler ce domaine-là qui me passionne.
Est-ce que vous avez un exemple d'événement récent que vous avez couvert et qu'à la même fois vous avez peut-être regardé dans les médias et vous avez vu cette dissociation entre un réel et la façon dont c'est traité dans les médias, notamment dans le flux de direct et le flux continu?
C'est pas aussi simple que ça, c'est pas aussi flagrant et c'est pas à chaque fois. Mais il y a assez souvent une tyrannie du direct, des images en direct, qui fait qu'on se focalise sur l'événement le plus spectaculaire ou celui qui va prendre le plus de place sur l'événement. Mais assez souvent, quand on fait du journalisme de narration, c'est-à-dire qu'on prend son temps et qu'on ne diffuse pas en direct ces images, ce qu'il y a de plus intéressant se passe sur le côté, derrière, à droite, à gauche, avant ou après l'événement. Moi, on m'a toujours appris, et c'est comme ça que j'ai toujours pratiqué mon métier, d'arriver très tôt sur un événement et d'en repartir très tard, parce qu'en général, c'est avant ou après que les choses intéressantes se passent. Au milieu, il y a beaucoup de spectacles et de théâtre, même dans une manifestation, ou même dans, vous parliez du congrès du Parti communiste, le moment où le nouveau secrétaire du Parti communiste fait son discours, c'est pas le moment le plus intéressant. parce que et c'est pourtant une image que vous allez beaucoup voir, parce qu'il va être derrière son pupitre et il va jouer l'orateur. C'est une image qui est pas inintéressante, mais c'est pas la plus intéressante pour moi. Pour moi, le plus intéressant, c'est d'essayer de suivre cette personne dans les couloirs du Congrès, de voir comment il serre les mains des gens, comment il s'en approche, comment les gens lui parlent. Voilà. Pour moi, ça, en image, c'est beaucoup plus parlant sur un personnage public, politique, que la tribune ou même les gens qui vont être derrière la banderole sur une manifestation ou qui vont faire un acte de violence pour qu'on les photographie. Parce que cet acte de violence est aussi une image toute faite et que trop souvent les photographes se concentrent sur cet acte de violence-là qui en soi ne dit pas grand-chose sur les revendications. Donc j'essaie toujours de faire très attention à ce genre de manifestation au sens large du terme de l'événement et de l'actualité pour me concentrer sur des choses qui sont moins vues et moins regardées.
D'accord. Alors à quel moment de votre parcours vous êtes-vous dit que vous seriez photographe ?
Alors très très tôt. Moi j'ai un souvenir, j'avais 13 ans à peu près et y avait des libés qui traînaient chez moi, chez mes parents et je voyais ce journal et je voyais des photos et ça me fascinait et je me suis dit très tôt que je serais photographe et très tôt que je serais photographe à Libération. Voilà, donc c'était exactement ce que je voulais faire. Donc, la décision a été très rapide.
Donc, vous aviez un projet très précis et pourtant vous n'êtes pas d'abord passé par une formation en photographie comme par exemple un BTS photo, mais vous êtes passé par une fac de cinéma à Montpellier.
Ouais.
Pourquoi être passé par là ? Est-ce que vous souhaitiez être cinéaste ou directeur de la photographie par exemple ?
Non, alors il y a deux aspects. Il y a un aspect très pratique qui est que l'École nationale de photographie d'Arles que j'ai faite après par la suite en 95, c'est tout dire, c'était au siècle dernier. Il y a un concours d'entrée et qu'il fallait préparer ce concours d'entrée. Donc plutôt que de perdre mon temps, je suis rentré en cinéma, en fac de cinéma à la fac de lettres à Montpellier. Pour suivre ces études de cinéma qui m'intéressaient, parce que je pense que quand on se destine à faire de l'image d'actualité, c'est bien d'avoir des références très diverses, qui ne soient pas que du photojournalisme. Je pense qu'il y a à gagner énormément en regardant des références très très diverses, qu'elles soient artistiques ou cinématographiques. Donc j'avais envie de ça, et ça me permettait de préparer mon concours d'entrée à l'École nationale de photographie d'Arles. Après l'École nationale de photographie d'Arles, donc j'ai eu le concours, je suis rentré à l'école de photo, mais c'est une école de photo un peu particulière, c'est une école vraiment d'art, c'est pas une école de photojournalisme. Or moi je me destinais à travailler dans la presse, donc c'est un parcours un peu particulier, mais j'ai aussi pris la chose à l'envers, c'est-à-dire que j'ai regardé au sein de Libération ou dans les photographes qui m'intéressaient, qui me plaisaient, avec qui j'avais envie de travailler et d'apprendre, où est-ce qu'ils pouvaient donner des cours. Et j'ai vu que beaucoup donnaient des cours, des workshops, des stages, des conférences ponctuelles dans cette école. Donc, je suis allé dans cette école pour pouvoir les rencontrer et rentrer dans cette famille de métiers-là. C'est ce qui s'est passé et même si le parcours il est un peu sinueux et il est un peu à côté, ça m'a permis premièrement de rencontrer ces personnes-là et d'avoir ce parcours professionnel pour arriver là où je voulais aller, c'est-à-dire être photographe à Libération. Mais aussi ça m'a confronté à des références qui étaient artistiques, d'art contemporain, de cinéma expérimental, qui ont nourri ma photographie d'actualité. Ce que je vous disais tout à l'heure, de dire ne pas se contenter quand on va photographier le congrès du Parti communiste du personnage principal qui va faire son discours derrière la tribune, mais d'aller regarder à droite, à gauche, derrière, sur les à côté, c'est aussi nourri par des références qui sont des références artistiques, plastiques, et qui ne se contentent pas d'avoir le nez sur l'événement. Voilà, c'est toujours ce que j'ai cherché à faire. Non pas par posture, mais parce que je pense que ça sert la narration journalistique de travailler les événements en étant presque un mauvais journaliste. C'est-à-dire que l'événement, finalement, est un épiphénomène, il n'est pas très très intéressant et on l'oublie. Il y a assez peu d'événements historiques avec des dates et des jours et des heures précises qu'on retient. Il y en a, mais c'est quand même pas la majorité du boulot tous les jours. En revanche, s'attacher à des personnages ou des lieux en y revenant régulièrement, en travaillant sur la longueur, sur ces choses-là, pour que vos photos que vous avez faites au début des années 2000, elles soient cohérentes et qu'elles tiennent à côté d'une autre image que vous aurez fait 15 ans après. Voilà, l'idée, c'est de tracer un fil rouge entre tout ce travail-là sur un temps qui soit assez long.
Et je pense que c'est là où on voit le rapport, votre rapport au cinéma aussi, où les images, ce sont des images qui tiennent. On en parlait dans le premier épisode avec Jonathan Higbourg, où il disait qu'il y avait des films qui restaient, notamment pour des plans, des lumières. Est-ce que vous vous considérez comme cinéphile et comment cette cinéphilie peut vous aider sur le terrain vraiment à construire des images et des photographies ?
Alors moi, je suis un passionné de cinéma et je serais cinéphile, mais amateur. Hein. mais oui, évidemment que ça nourrit. Évidemment que ça nourrit parce que y a quand même un moment, même si on fait de la photographie et notamment du photojournalisme, ça reste un cadre dans lequel on met des éléments du réel. Il y en a certains qu'on enlève et on organise ces éléments du réel. Donc, je fais un travail quand je fais une photographie qui proche du travail que peut faire un chef-op ou un réalisateur quand il choisit son cadre et quand il choisit quels éléments il va mettre dedans. Évidemment, on ne le fait pas à la même vitesse, puisqu'un réalisateur, il va partir de scénario, faire un découpage, faire un storyboard, et puis une fois sur le plateau, modifier peut-être la place de sa caméra et travailler avec des équipes. Quand on est photographe, et quand on fait du reportage en particulier, on travaille seul. On choisit notre cadre, on choisit notre lumière, mais surtout, on se place par rapport au réel très très rapidement. Puisque si on couvre une manifestation, vous avez vu les dernières images des manifestations des Gilets jaunes, quand ça commence à taper, ça tape vite. Donc quand on fait des photos de ça, il faut quand même décider très très vite. Donc ça nourrit ce type d'image et on s'en inspire évidemment dans le cadre de la construction d'images. C'est sûr. Et il y a un autre élément aussi, c'est que, comme je vous disais, moi j'essaie d'être un peu un mauvais journaliste, c'est-à-dire que j'essaie de tirer le réel vers la fiction. J'essaie toujours de trouver ce qu'il y a dans le réel qui peut tirer vers la fiction. Et ça, le cinéma permet de... Très régulièrement, je me trouve dans des situations où, face à des personnages où je me dis... Mais si un scénariste mettait ça dans son scénario, le producteur lui dirait « Non mais ça va pas, t'es complètement fou ». Et très souvent, le réel dépasse la fiction. Et finalement, il faut pouvoir avoir un bagage suffisant de la fiction pour voir ce genre de choses dans le réel. Ça devient compliqué ce que je dis, mais c'est finalement assez simple. C'est-à-dire qu'il faut vraiment regarder le réel en termes documentaires, pour ce qu'il est, mais aussi pour des besoins de la narration, pour que le spectateur puisse suivre le propos que vous faites sur le réel, il faut qu'il y retrouve des outils de la narration. Suivre un personnage particulier qui est fort, suivre des endroits qui soient assez purs et que le spectateur va reconnaître dans son inconscient iconographique. Donc c'est vraiment les outils de la fiction, ils permettent de faire du bon travail documentaire. C'est un peu paradoxal, mais tous les documentaristes vous expliqueront ça. C'est-à-dire que le réel, il est très bien traité avec les outils de la fiction.
Je pense que c'est important dans votre esthétique de reporter photo, notamment à Libération, où vous jouez beaucoup sur des éléments cinématographiques qu'on ne voit pas dans les photos d'habitude. Par exemple, des décadrages qui isolent le sujet avec des motifs abstraits. Mmh. On se concentre avec un gros plan sur une petite partie du corps de l'homme ou de la femme politique, des mains, des têtes ou même des pieds, des fois. Il y a aussi des angles originaux, des plongées, des contre-plongées totales où on voit vraiment, par exemple, que le crâne de quelqu'un. On a aussi des situations totalement burlesques, décalées, drôles, qu'on ne voit pas dans les photographies ou dans les reportages d'habitude. En fait, en prenant ces photos, vous avez un problème, je trouve, qu'il faut que vous résolviez très vite sur le terrain. Vous devez à la fois vous distinguer esthétiquement, garder une valeur informative et ne pas être non plus docile avec le pouvoir. Ça, c'est, je pense, une question qu'on va pouvoir aborder sur l'aspect plus politique, vu que vous êtes en rapport directement avec des hommes de pouvoir.
Vous avez bien décrit le cahier des charges. Hein. C'est, c'est exactement ça. Moi, effectivement, vous parliez de décadrage et de cadrage un peu particulier, de lumière particulière. Moi, je suis toujours en recherche de ce genre de choses. Après, c'est une recherche qui peut être dangereuse parce qu'on peut tomber dans le maniérisme et dans l'esthétique. Donc ça, il faut faire très attention. Parfois, on y tombe. Hein. Parfois, on se plante. Mais il faut chercher le décadrage, chercher la lumière particulière, chercher ce que je vous racontais sur notre personnage du congrès du Parti communiste, le travail avant, après. On cherche ce décadrage-là et cette déconnexion par rapport au temps médiatique. Après, il faut que ces cadrages-là originaux, ou en tout cas tant qu'on essaye de les faire originaux, il faut qu'ils aient du sens. Puisque quand on fait du photojournalisme, on fait une image qui doit donner une information et doit donner du sens en tout cas. Alors, quand je dis une information, c'est pas forcément une information très importante, mais une information qui amène sur une psychologie du personnage, la manière qu'il a de sortir de la voiture, de serrer la main de quelqu'un d'autre, le regard qu'il peut porter sur les militants, les gens. Donc c'est pour ça aussi que le domaine politique moi me passionne, parce qu'il y a énormément, il y a un matériau qui est fabuleux là-dedans. Donc oui, la recherche de l'originalité de l'image, mais avec du sens.
Il y a un deuxième aspect, c'est comment ces photos s'insèrent dans un récit journalistique que vous n'écrivez pas, parce que vous êtes simplement reporter photo.
Alors ça, c'est un autre élément important aussi, c'est vrai, c'est que j'ai eu la chance, bon, tout le travail que j'ai fait à Libération de 2000 à 2015, c'est un travail que j'ai pu faire parce que j'avais des gens qui me faisaient confiance, c'est-à-dire qui non seulement m'envoyaient en reportage en se disant que je pouvais leur fournir une image qui sera en capacité de publier, donc moi, le travail à Libération de 2000 à 2015, c'est un peu plus de 301 du journal. Et c'est une période où je suis sorti tous les jours en commande faire des photos, où je faisais entre 400 et 600 photos par jour. Donc, c'est un travail un peu énorme. Mais au finish, quand on choisit une image, on l'envoie à quelqu'un, un éditeur photo en l'occurrence, avec qui vous allez dialoguer et avec qui on va tomber d'accord ou pas. En général, on tombait d'accord parce qu'à Libération, on avait les mêmes références culturelles. Je travaillais notamment avec deux personnes qui avaient fait la même école de photo que moi. Pas au même moment, mais qui a fait la... Donc, on avait le même bagage de références. On parlait d'école tout à l'heure, mais là, on le voyait. C'est-à-dire qu'on avait les mêmes références et je pouvais envoyer quelque chose de totalement décadré ou un bout de crâne d'Alain Juppé. Il comprenait ce que je voulais dire et la position. Et ce qui était intéressant, c'est qu'à Libération, à cette époque-là, et encore aujourd'hui, il y a un profond respect du point de vue du photographe. Le photographe n'est pas seulement le photojournaliste, et surtout le photojournaliste d'actu ou de politique, n'est pas seulement là pour faire une image qui valide le texte. Assez souvent, dans la presse, on prend une image qui correspond parfaitement au texte qui est écrit, ce n'est qu'une illustration. À Libération, et moi c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui au jour avec les photographes avec qui je travaille, c'est que l'image amène une autre voix, une voix qui va s'additionner, qui va être en plus du texte et de la subjectivité donnée par la rédactrice ou le rédacteur, mais aussi peut-être une voix dissonante, ou en tout cas une voix subjective. Donc c'est ça qui m'intéresse, c'est trouver des photographes avec des signatures et avec des univers particuliers et qui vont essayer de retrouver leur propre univers photographique sur à peu près n'importe quel sujet qu'on peut aller photographier. C'est ça qui est intéressant. Donc après ça, il faut pouvoir avoir des publications qui autorisent ça. C'est sûr que si vous arrivez... j'ai plein de camarades aux Parisiens, mais si vous arrivez aux Parisiens avec le type d'image que je proposais à Libération, j'aurais pas tenu deux jours. Voilà. Après, on est en capacité de faire ces images-là, mais il faut aussi avoir un réceptacle, une publication qui est OK avec vous pour travailler de cette manière-là. Donc ça, c'est une vraie chance.
Tout à l'heure, vous parliez de la capacité à être rapide pour faire une photo, pour capter son sujet qui parfois est très vif. Or, un appareil photo avec un objectif, c'est lourd. Vous êtes souvent dans un espace contraint avec des personnes, beaucoup de personnes, et donc l'espace est délimité. Est-ce que c'est juste une question de rapidité et d'instinct ?
C'est pas que ça, mais ça participe beaucoup. Alors, la photographie est un exercice éminemment physique. C'est Cartier-Bresson qui disait qu'on faisait de la photo avec ses pieds. Parce que quand on fait de la photographie comme il pouvait la pratiquer lui, c'est-à-dire quasiment en solitaire, à parcourir des pays. On marche beaucoup, on piétine, on revient sur quelque chose qu'on a vu. Voilà. On est disponible au réel. Donc, fatalement, c'est de l'attention, c'est de la concentration, c'est du visuel, mais c'est aussi du corps, du physique. Moi, je pratique encore quand même régulièrement une photographie d'actualité dans un moment où il y a beaucoup de caméras, beaucoup de photographes, beaucoup de preneurs de son. Donc, évidemment, il y a mot que je déteste, ce qu'on appelle la meute, parce que ce n'est pas une meute, mais en tout cas, il y a une masse de journalistes, de représentants humains de ce milieu médiatico-politique. Donc, évidemment, on doit donner des coups d'épaule, on doit faire sa place. Mais plus que tout ça, on doit trouver son point de vue. Parce que assez souvent, la meilleure place, elle n'est pas forcément dans la foule des caméras. Parfois, oui, mais assez souvent, non. C'est encore une fois ce que je vous disais sur mes photos au congrès du Parti communiste. C'est peut-être l'avant, c'est peut-être l'après. C'est peut-être complètement de côté ou à l'arrière. Et en fait, il faut, quand on est photographe, être rapide, surtout dans l'analyse de la situation. C'est de se dire, voilà, je photographie tel événement, telle manifestation de gilets jaunes. Il y a un moment, je vois bien que les flics sont à gauche, que les gilets jaunes sont à droite, que pour l'instant c'est calme, mais que ça ne va pas l'être dans 5 minutes. Et donc, se poser la question de sa propre place, de son propre point de vue, en tant que preneur d'image. Et il faut déterminer quelle est la meilleure position pour défendre votre point de vue sur cet événement, parce que de ce point de vue implique l'image que vous allez faire, et donc la narration et l'histoire que vous allez donner sur cet événement. Donc c'est quelque chose d'à la fois très intellectuel, c'est-à-dire qu'il faut quand même analyser une situation, analyser une image qui est donnée, qui est presque faite, parce que où que vous soyez, si vous mettez un appareil photo à votre œil, vous faites une image. Mais il faut se poser la question de que veut dire cette image. Voilà. Et c'est aussi quelque chose de très sensoriel, puisque c'est un moment où il faut courir ou pas, où faut s'accroupir, où il faut monter sur quelque chose pour prendre un point haut. Voilà. Donc un photographe se pose toutes ces questions, un peu en permanence, de point de vue, de position, parce que quand on a un appareil photo, mais c'est la même chose avec une caméra, c'est quelque chose où le corps est impliqué. Le point de vue et la prise d'image, ça implique une position du corps. Donc c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est vraiment primordial pour les preneurs d'images, même de son. Il y a des preneurs de son, s'ils font bien leur boulot, ils sont parfois en des positions compliquées parce qu'ils vont aller chercher un son particulier qui est peut-être un peu loin, et ils ont aussi la notion de s'ils sont des preneurs de son dans un cadre documentaire cinéma, avec un caméraman, ils vont savoir où est leur caméraman, et donc ils vont aller chercher le son qui correspond à ce qu'il est en train de tourner. Donc voilà, il y a des on passe notre vie sur ces métiers-là à essayer à comprendre où on est et ce qu'on fait. C'est aussi bête que ça.
Est-ce que vous avez réussi dès le début de votre parcours en tant que photographe à Libération, à la sortie de l'école, est-ce que vous avez réussi dès le début à capter et à réussir des reportages photos, ou est-ce qu'au début vous êtes cassé la gueule et vous n'avez pas compris comment photographier un meeting ou suivre un ministre qui se déplaçait ?
Je ne suis pas certain d'avoir compris là aujourd'hui totalement. On apprend tout le temps. Évidemment qu'au début, moi, je me suis planté royalement sur certains trucs. Hein. C'est un risque. C'est un risque. Voilà, qu'il faut courir. Et encore une fois, c'est la grande chance d'avoir des gens qui vous commandent des reportages et qui sont d'accord pour vous faire travailler, qui prennent ce risque-là aussi. Parce que quand on fait travailler quelqu'un en commande, bon, encore aujourd'hui, au jour, quand j'envoie un photographe en commande, je prends le risque qu'il se plante. Ça arrive parfois. Et c'est pas très très grave. Enfin, je veux dire, on est dans des métiers où... Je dis souvent de manière ironique, on ne fait pas des opérations à cœur ouvert.
Enfin, même sur 500 photos, vous pouvez avoir un reportage qui va être raté ?
Oui, alors on ramène toujours une image, on ramène toujours quelque chose. Je ne suis jamais rentré bredouille, voilà, dans un reportage. C'est ça, c'est parce qu'on a quand même un besoin, quand on vous envoie en reportage quelque part, c'est aussi que la publication, que ce soit un journal papier ou un journal sur le web, il a besoin d'avoir une image à mettre dans la case qui lui est dédiée. Donc, il vous envoie en commande. Donc, le minimum, même si vous vous plantez totalement, c'est de lui renvoyer, de faire une proposition, de lui renvoyer, de lui donner une image. Quoi. Bon, donc ça, on rentre jamais, totalement à poil, mais on n'est pas tous les jours très très bon, on n'est pas tous les jours très très signifiant. C'est peut-être vous, parce que vous avez d'autres problèmes, parce que vous n'étiez pas concentré, parce que voilà, vous aviez autre chose derrière, vous étiez pressé. Et puis c'est des fois l'événement qui semblait sur le papier très très intéressant et qui finalement n'est pas du tout. Donc ça, c'est des choses à gérer, mais qui sont assez classiques en journalisme, où on fait des paris sur des événements, ou sur des périodes, sur des séquences. Et c'est des problèmes qui reviennent sur de la photo, sur du texte, sur de la vidéo, qui sont équivalents. Mais évidemment qu'au début, les premières fois où je suis allé en reportage en commande, déjà j'avais peur, parce que c'est quand même une sacrée responsabilité. Et puis, j'ai pas compris tout de suite, mais on regarde comment font les vieux briscards, les autres photographes, où est-ce qu'ils se placent, est-ce que c'est vraiment... Voilà, on avance toujours et on apprend toujours à chaque reportage. On apprend un peu plus sur la manière dont marche le réel.
En 2014, vous avez créé un livre numérique.
Oui.
Où vous commentiez avec humour vos photographies prises à l'Élysée depuis 2012, durant le quinquennat de François Hollande, que vous avez suivi depuis très longtemps, depuis 2000, quand ouais. Il était premier secrétaire du Parti Socialiste.
Ouais.
Et donc vous décriviez un dispositif toujours plus contraint pour la presse, qui permettait de renforcer la communication du pouvoir. Comment est-ce que vous avez vu cette évolution de la contrainte pour le photographe ?
Alors, ce livre et ces textes, c'est issu d'un blog que j'ai tenu à partir de 2006 à Libération, qui s'appelait Développement, où j'ai ressenti le besoin à un moment, quand je rentrais des reportages, alors surtout les reportages politiques. Je pouvais faire les images que je voulais, il y avait plein de choses qui passaient, mais je ressentais un manque de raconter certains moments, des reportages, certains détails que je ne pouvais pas mettre dans les images, parce que tout simplement... C'était souvent des détails sonores, des citations, des dialogues que j'avais entendus qu'on ne pouvait pas mettre dans les images. Donc j'ai ressenti le besoin d'écrire ces choses-là. C'est un blog qui a plutôt très bien marché à l'époque. Et on a décidé d'en faire un livre numérique autour du film d'Yves Jolland, en tant que président. Puisque Yves Jolland, qui est un ami avec qui on a beaucoup travaillé ensemble sur des documentaires politiques qu'il a fait, et moi j'étais à la photographie dehors, un peu dans la masse des photographes, et lui il était à l'intérieur de l'Élysée, dans ses coulisses, et l'idée c'était à travers ce livre d'avoir nos deux voix, à la fois la mienne un petit peu à l'extérieur de ce monde politique, et lui embedded dans les coulisses à l'intérieur. Donc l'espace de communication, il s'est réduit pour plein de raisons, parce que il y a une prise de conscience des politiques du pouvoir de l'image, et que donc il y a une volonté de contrôle de cette image, et que les communicants pensent trop souvent à tort que contrôler l'image, c'est contraindre les photographes. Donc, de plus en plus sur la politique, sur de l'actu, sur des choses très institutionnelles. Si on couvre l'actualité du président de la République ou du Premier ministre ou des ministres, très souvent, quand vous êtes photographe, vous arrivez et on vous dit, bah, vous vous mettez là et puis vous ne bougez pas. Et donc, évidemment, on vous crée une image. C'est en ça que je dis souvent que la politique est un théâtre, parce qu'on place les photographes à un point de vue et on va organiser... une sortie de ministère, une entrée en voiture, une poignée de main, tout ce genre de choses que vous voyez, mais qui sont du théâtre, qui sont quelque chose de totalement fake, pour reprendre un mot à la mode. Et tous ces moments-là, un peu faux, se sont de plus en plus multipliés. Et tout ce dont je vous parlais depuis le début de cet événement-là, moi, il ne m'intéresse pas beaucoup. En revanche, ce qui se passe avant, ce qui se passe après, ce qui se passe sur le côté, ça m'intéresse. C'est de plus en plus difficile d'accès. Alors, on y arrive assez majoritairement, mais on est quand même obligé de batailler beaucoup, beaucoup pour avoir accès à ces accès-là, qui, moi, je le pense, sont beaucoup plus signifiants qu'une poignée de main sur un perron d'un ministère. Voilà. Donc c'est une bataille pas inintéressante à mener avec les services de communication, avec les services de presse, parce que malgré tout, c'est les services autour des personnages politiques qui vous ouvrent la porte ou pas, qui vous donnent accès ou pas. Donc, y a un travail de négociation, pour le coup, un peu permanent et de dialogue avec ces gens-là qui organisent les événements d'actualité ou les événements politiques pour pouvoir accéder aux bonnes scènes et aux bonnes situations.
Il y a un autre phénomène qui est concomitant à celui d'un contrôle de l'image, c'est des hommes politiques et des femmes politiques qui ont un photographe attitré. Alors c'est sûrement une forme de communication qui est un peu plus ancienne que le 21e siècle, mais ce phénomène a trouvé une nouvelle forme de résonance avec les réseaux sociaux. Alors on l'a vu avec le travail de Pete Souza qui a suivi pendant 8 ans Barack Obama à la Maison Blanche et dont les photos étaient diffusées sur Flickr et ensuite sur Instagram. Ou en France avec le travail de Soizic de la Moissonnière qui a suivi François Bayrou puis Emmanuel Macron de sa campagne électorale en 2016 à l'Élysée avec des photos qui sont au cœur de la narration du pouvoir sur les réseaux notamment. Comment jugez-vous ou quel est votre avis sur le travail de ces photographes ?
Bah, c'est souvent des bons photographes qui font des bonnes photos. Généralement, j'ai pas de problème avec ce travail-là. Il existe. Je pense que c'est très bien qu'il soit fait. Parce que malgré tout, il a un aspect documentaire institutionnel qui est intéressant. Le travail de Pete Souza, heureusement qu'on a ce travail-là sur l'intérieur de la Maison Blanche. C'est un très très bon photographe, Pete Souza. Mais il a été tout seul avec Barack Obama en coulisses dans les couloirs. Moi, j'aurais bien aimé être à sa place. Hein. C'est compliqué de louper des photos dans ces cas-là. Donc, c'est un travail intéressant. Là où ça devient plus gênant, c'est quand la presse utilise ces images-là sans dire que ce sont des images de communication. Encore une fois, j'ai aucun problème à ce que ces images soient faites. C'est leur utilisation par la presse qui pose problème. C'est pas le fait qu'elles existent. Ça a toujours un petit peu existé. Il n'y a rien de très, très neuf. Là où vous avez raison, c'est qu'il y a une accélération et une amplification de la circulation de ces images via les réseaux sociaux. Ça, c'est un problème. Je ne sais pas si c'est un problème, mais en tout cas, c'est une réalité qui dit que ces images-là, qui sont très bien faites, qui ressemblent à des reportages sur le vif, qui ressemblent à quelque chose de pas du tout cadré et qui en fait l'est totalement, vont se diffuser sur les réseaux sociaux comme étant une image indépendante de ce qui se passe réellement, alors que ça ne l'est pas. C'est de la communication. Encore une fois, moi, ça ne me gêne pas. J'ai aucun problème avec ça. Je pense que le pouvoir fait son boulot. Il défend son point de vue en fabriquant ce genre d'image. Ça a toujours existé, ça existera toujours. Faut pas se leurrer. Après, il faut savoir décrypter ces images et il faut savoir les analyser. Je pense que ça ne sert à rien du relais au loup. En revanche, il faut faire beaucoup de pédagogie pour dire que Pete Souza, c'est formidable, mais c'est de la com. Moi, je me souviens, sous Obama, j'avais plein d'amis journalistes, rédacteurs dans les magazines qui passaient leur journée à me parler de Pete Souza, pensant que c'était du vrai travail de photojournaliste. C'est du travail de communication extrêmement bien fait et d'extrêmement haute qualité. Mais c'est du travail de communication et il faut le prendre comme tel. Voilà. Donc encore une fois, il faut surtout bien analyser les choses.
Est-ce que vous auriez pu ou pourriez être un jour un photographe d'un homme ou d'une femme politique ?
On ne sait pas de quoi la vie est faite. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Je suis pas du tout un père à la censure, quoi.
Voilà. Pour vous, c'est pas quelque chose que vous pourrez vous interdire en vous disant c'est de la communication
et... Ça dépend de plein de choses. Ça dépend du personnage, ça dépend de la manière dont c'est fait, ça dépend de l'utilisation des images, ça dépend de leur statut, ça dépend de plein de choses. C'est pas inintéressant hein, comme travail, de travailler, pourquoi pas, de manière un peu assez marrante. Moi, ça m'amuserait de bosser avec cette optique-là. Voilà, pour voir si j'en serais capable, pour voir si ça marcherait. Si ça marche pas, on fait autre chose. C'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est quand on travaille pour que ce soit un service de communication ou un journal, il faut savoir pour qui on travaille, ce qu'on vous demande et voilà, ce que vous pouvez faire et pas faire. C'est assez intéressant de bosser en commande comme ça, avec des contraintes très fortes. Mais quand on est indépendant, on est indépendant. Et quand on travaille sous contrainte, on travaille sous contrainte. On est capable de passer de l'un à l'autre comme ça. Moi, ça m'est jamais arrivé de travailler pour un politique, mais ça m'amuserait de le faire. Ouais. Ça m'amuserait. Mais je ne sais pas si d'abord ça arrivera. Je ne sais pas si surtout j'y serai très à l'aise. J'en sais rien.
Donc sur la commande, on peut également parler de vos photographies institutionnelles.
Mmh.
C'est-à-dire des commandes que vous avez réalisées pour des grandes entreprises comme Nissan, GDF ou la SNCF. Que ce soit pour couvrir des événements comme des colloques, montrer le travail des salariés ou encore dans la mode. Est-ce que ça reste un terrain de jeu créatif malgré la nécessité de répondre à un client?
Oui, ça peut. C'est toujours pareil. Il faut arriver à dans une production d'image qui est une destination publicitaire ou de communication, à tirer son épingle du jeu créatif. C'est-à-dire à retrouver son point de vue et sa manière de faire sur ce type d'application et de commande. Tout est une question de degré. C'est-à-dire qu'il y a des fois où on y arrive plus que d'autres. Des fois, c'est plus contraint. Bon, c'est des boulots qui sont intéressants à faire. Hein. Outre l'aspect commercial de la chose, qui permet de vivre et de pratiquer son métier, ce qui est quand même pas désagréable, c'est d'arriver déjà à bien séparer ce travail-là de ce que vous pouvez faire pour la presse, quand vous avez des commandes presse. Moi, je me suis retrouvé à un moment où Libération me demandait, c'était à l'époque, c'était il y a longtemps, au moment de la privatisation de GDF, Libération m'a demandé de couvrir tout ce processus de privatisation. Il se trouve qu'à ce moment-là, de temps en temps, je faisais des boulots pour GDF. J'ai arrêté de faire des boulots pour GDF et j'ai privilégié de travailler pour Libération en presse. Voilà. Je ne pouvais pas faire les deux en même temps, ce n'était pas possible. Donc il faut arriver à contingenter les choses et à les cadrer. Mais c'est des boulots qui sont assez intéressants parce que la commande et la contrainte vous obligent à trouver des ressources que vous n'auriez pas trouvées si on est trop libre. Après, ça, alors là, c'est vraiment un point de vue que chacun défend et ressent comme il le peut ou il le veut. Moi, j'adore bosser en commande et sous contrainte. Parce que ça booste ma créativité dans le cadrage, dans la recherche du type d'image à faire. Vous avez d'autres photographes qui, eux, ne vont pas supporter du tout de bosser en commande et qui ne peuvent bosser que libre. Voilà, tout est, il n'y a rien qui est mieux l'un que l'autre. Mais moi, j'aime bien avoir des contraintes, ça me pousse.
Est-ce que votre expérience de proximité avec les hommes et femmes de pouvoir vous a aidé à appréhender ces grandes entreprises et leurs grands dirigeants, puisque vous avez notamment photographié le PDG de la SNCF ou celui de Renault, Carlos Ghosn? Est-ce que dans ces travaux de commande, vous avez quand même réussi à les voir différemment, malgré le fait que ce soit de la commande?
Y a une réalité, c'est qu'on vient me chercher pour faire ce travail pour les entreprises, parce que je photographie des politiques pour la presse et qu'il y a, quelque part une iconographie un peu assez proche. Photographier un grand patron peut être assez équivalent à la manière de photographier un politique. Et ça amène une image qui est intéressante pour les entreprises aussi, de photographier des décideurs ou des choses qui sont un peu opaques et un peu virtuelles comme ça sur la direction d'une entreprise, mais voilà, on vient me chercher pour ça parce que j'ai un travail sur la politique. Donc ça, c'est une évidence. Est-ce que j'ai un regard aussi acéré que le travail sur la politique? Non. Non, ça reste un travail de commande commerciale avec des contraintes très fortes de rendu pour les gens qui me commandent ces photos-là. Donc je n'ai pas un travail aussi acéré que sur la politique.
Ce regard, justement, il se construit dans le temps. Ouais. Par exemple, on peut parler de votre suivi de François Hollande, que vous avez vraiment connu pendant une dizaine d'années, de sa simple fonction de secrétaire du Parti Socialiste, qui est très médiatique, jusqu'à la présidence où il avait beaucoup plus de pouvoir. Comment a évolué cette relation avec ce sujet et cette personne?
C'est une drôle d'histoire. Moi, je me suis retrouvé en 2000, quand je suis arrivé à Libération, le photographe qui suivait le Parti Socialiste partait du journal. Et donc, on m'a un peu confié comme ça régulièrement le suivi du Parti Socialiste, dont François Hollande a été premier secrétaire. Donc, je me suis retrouvé à photographier François Hollande de 2000 à 2015. Donc, effectivement, dans des rôles, comme vous le disiez, extrêmement différents de députés, premier secrétaire des partis socialistes, dans un rôle très très politique. Voilà, avec tous les changements qu'a pu avoir François Hollande, y compris physique. On se souvient qu'il a perdu beaucoup, beaucoup de poids pendant la campagne en 2012. C'est, moi, je trouve que c'est un vrai privilège de photographier quelqu'un pendant autant d'années et de le suivre avec toutes ces évolutions-là. Notamment François Hollande, qui est quelqu'un qui est quand même... assez agréable à accompagner, qui a beaucoup d'humour, qui est presque une caricature du politique dans le sens où il sort d'une réunion, il arrive quand même à être de la politique. C'est vraiment ce qu'il aime. C'est un garçon qui lit pas de romans, qui ne pense qu'à la politique, qui ne vit que pour ça. Et du coup. C'est un personnage très très intéressant à photographier et à suivre. Donc moi j'ai vraiment apprécié de voir toute cette évolution avec cette histoire. Enfin, c'est une chance de prendre quelqu'un dont on en domine, on n'aurait pas imaginé qu'il serait président de la République un jour, et d'avoir cette histoire qui se raconte comme ça. Donc ça c'est un vrai plaisir sur le long terme.
Dans le précédent épisode avec le directeur de la photographie pour le cinéma, Jonathan Ricbourg, on parlait de la façon de filmer l'intime. Est-ce qu'avec François Hollande ou avec d'autres personnes dont vous avez fait les portraits, il s'est créé une relation intime ou un rapport à votre sujet qui a du coup évolué aussi dans la façon dont vous les avez appréhendés?
C'est le rapport à l'intime avec les politiques, il est compliqué parce qu'il nourrit beaucoup de fantasmes qui ne sont pas forcément réels, surtout chez les photographes. Moi, il y a plein de personnages politiques que j'ai beaucoup photographiés, avec qui j'étais dans des situations de voyage ou de salles de réunion, ou de, enfin voilà, vraiment des endroits clos, mais qui savent pas du tout qui je suis. Ouais, ils connaissent vaguement François Hollande, qui est la personne que j'ai le plus photographié, plus que mes enfants. Il ne sait pas qui je suis. Il connaît mon visage, il voit à peu près qui je suis. Mais si vous lui demandez de mettre un nom sur mon visage, il en est strictement incapable. Pourtant, j'ai des milliers de photographies avec François Hollande et j'ai fait des milliers de kilomètres avec lui et j'ai passé beaucoup d'heures dans sa compagnie à côté, juste à côté. Donc, ça tient aux personnages politiques. Vous en avez qui sont plus demandeurs que d'autres. De cette séduction, parce qu'un personnage politique est toujours dans la séduction. Donc il va chercher à séduire l'électeur, mais aussi chercher à séduire le journaliste qui l'accompagne. Donc ça dépend vraiment de chacun. Et il y a aussi, moi j'ai toujours mis un point d'honneur à régulièrement montrer ma carte de presse. C'est-à-dire que les moments où on devenait, on va dîner, et puis là, on pose appareil photo, et puis on est dans des situations... Moi, j'ai toujours été rétif à ça. C'est aussi pour ça, vous parliez, que j'ai jamais travaillé pour un pouvoir politique ou pour un service de communication, parce que moi, j'ai toujours mis un point d'honneur à pas faire de scandale, mais à dire, je suis là, je suis journaliste. Donc là, tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce que je peux m'en emparer. C'est ça le deal, finalement, avec les personnages qu'on suit. À partir du moment où on ferme la porte, on ferme la porte. Je ne mets pas le pied dedans et je ne rentre par la fenêtre.
Mais en fait, il n'y a pas de off que vous ne pouvez pas diffuser à partir du moment où vous êtes sur le terrain.
Le off en photographie, ça s'appelle le hors-champ. Et le hors-champ, j'essaie de le faire quand la séquence est ouverte. C'est-à-dire que quand le politique, il est avec moi, il est face à moi. Après, il y a des moments que je comprends tout à fait. Par exemple, le politique n'aime pas qu'on les prenne en photo pendant qu'il mange, parce que c'est moche. Voilà, moi, quand il mange, s'il y a un banquet ou dans une réunion militante, je ne fais pas de photo de ça. Parce que je sais que c'est inintéressant et que ça les met dans une posture qui est pas valorisante. Enfin, pas valorisante, ce n'est pas ce que je voulais dire. Qui est pas digne, voilà, qui n'est pas respectueuse. Je manie l'humour, j'essaie d'être caustique, mais j'essaie d'être respectueux et que les choses aient du sens. Voilà. Donc, la contrepartie de ça, c'est que quand je suis là et quand on m'autorise à être là, sur cette séquence, sur un couloir, dans une pièce, dans une réunion, je prends tout. Voilà, parce que je suis journaliste et que je revendique le fait d'être journaliste. Si à un moment on décide de me claquer la porte au nez, il n'y a pas de problème. J'attendrai devant la porte le qu'ils sortent. S'ils ont des trucs à se dire et qu'ils ne veulent pas que je l'entende, bah, faut pas le dire devant moi. Voilà. C'est un principe qui est assez simple, hein, qui est vraiment très, très, très basique. Mais la grande majorité des politiques le comprennent. Est-ce que les politiques du Nouveau Monde l'ont compris? Je pense qu'ils commencent à le comprendre. Mais c'est un principe journalistique de base qui fait que voilà, chacun est dans sa position, chacun garde ses distances et moyennant quoi on peut travailler dans le respect mutuel assez longtemps.
Quand on suit l'actualité de la profession de photographe en France, que ce soit dans la presse ou pour un travail plus documentaire, on parle beaucoup de la précarité du métier. Il y a beaucoup de témoignages et de tribunes sur des retards de paiement, des tarifs de photos qui baissent, un désintérêt pour les photos dans la construction des articles de la part des rédactions. En étant photographe de terrain, vous-même, est-ce que vous avez tenu compte de cette précarité dans la construction du site Les Jours ?
Alors, oui. Moi j'ai connu la précarité. Alors, une précarité un peu particulière à Libération, parce qu'à Libération, j'y suis resté 15 ans. J'ai jamais eu un contrat de travail. J'ai travaillé quasiment tous les jours, j'ai jamais été salarié. Donc j'étais pigiste, je travaillais à la journée et puis j'attendais qu'on m'appelle dans la journée et puis hop, je partais sur un reportage. Donc c'est une vie précaire qui est un peu compliquée, la pige. Parce que vous ne pouvez jamais compter sur un revenu régulier. Bon. Maintenant, j'ai travaillé quasiment tout le temps à Libération. Parce que j'avais de la pige régulière, que j'avais un volume de travail. Finalement, c'était un contrat moral entre le journal et moi, où moi, je me rendais disponible, et le journal savait qu'il avait un volume de travail à me donner pour que je puisse gagner ma vie. Donc, ça, c'est une réalité. C'est une réalité que moi, j'ai connue, où ça se passait bien quand il y a ce contrat moral. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a déjà moins de titres de presse, et que ces titres de presse, parfois, ne respectent pas ce contrat moral. Demande aux pigistes d'être disponibles, mais les paye mal, à 6 mois, pas en salaire, parce qu'avec la carte de presse, vous pouvez être payé en salaire, même si vous travaillez une journée, ou même 2 heures, vous êtes payé avec les cotisations salariales normales. C'est la loi. Mais c'est une loi qui n'est pas forcément respectée dans tous les titres. Donc c'est sûr que, ayant vécu ça, quand on a construit Des Jours, mais ça c'est aussi valable pour le texte et d'autres pigistes qu'on peut faire travailler pour différents contenus, on a voulu aussi dans le projet Des Jours mettre cette honnêteté de travail avec les pigistes, parce qu'on sait que c'est difficile. Et même si on est une petite structure, moi je paye les gens en pige salariale. Alors, je ne peux pas les employer, je ne peux pas leur faire des CDI, parce que c'est impossible, et que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de photographes qui demandent des CDI, surtout en photojournalisme, parce que en étant à la pige, ça vous permet de travailler avec des gens différents, sur des supports différents, sur des projets différents. Donc ça, c'est pas vraiment un problème. En revanche, quand vous travaillez, il faut vous travailler avec le statut qui est aujourd'hui reconnu de la carte de presse, de la pige salariale, où vous êtes payé correctement et pas à 6 mois. D'être payé à 30 jours fin de mois, qui est assez classique. Voilà, il y a plein d'aspects un peu techniques et administratifs, mais qui sont importants pour le rapport que vous avez avec les pigistes. C'est une réalité du métier, la précarité dans la presse. C'est de plus en plus fort. C'est de plus en plus important. Moi, ça me fait bien rigoler quand on dit qu'il y a une crise du photojournalisme. Il n'y a pas du tout de crise du photojournalisme. Il n'y a jamais eu autant de bons photographes excellents, bien équipés, qui travaillent super bien, qui travaillent mieux que les photographes des années 80. En revanche, il y a une crise des donneurs d'ordre. Il y a une crise des titres de presse qui, eux, à un moment, par souci d'économie, ont arrêté de passer des commandes ou ont arrêté de faire travailler une multiplicité de photographes pour seulement utiliser des tuyaux d'agences photo à qui vous payez un abonnement et finalement, vous vous servez sur ces images-là. Donc c'est un choix stratégique, nous c'est pas celui qu'on a fait. Nous on a plutôt choisi de travailler avec la diversité des producteurs d'images et du coup de proposer une diversité d'images à nos abonnés sur le site. C'est à la fois un saut qualitatif et un saut aussi de diversité d'images qu'on peut trouver sur le site quand on va sur lesjours.fr.
Et on a discuté dans l'épisode précédent de l'importance du statut d'intermittent du spectacle pour la création cinématographique qui peut être originale. Est-ce que vous réfléchissez à des solutions, non plus simplement pour un journal comme Les Jours, mais en termes de politique publique et peut-être de création d'un statut qui serait plus protecteur pour les reporters?
C'est assez compliqué parce que la discussion avec les éditeurs de presse est pas facile. On n'est pour l'instant pas du tout dans ce genre d'option. Il y a malheureusement une volonté des éditeurs de presse d'aussi, notamment pour les photographes, de rendre plus difficile l'accès à la carte de presse. Carte de presse qui est pas seulement un outil, c'est un vrai outil de statut. On le sait trop peu. La carte de presse vous permet d'être payé en salaire. Non seulement c'est un outil qui vous aide à aller dans des endroits où vous avez besoin d'être identifié comme journaliste, que ce soit les institutions, les ministères, plein d'endroits, même sur une manifestation. Si vous avez une carte de presse, même si c'est difficile, ça vous donne une protection par rapport à la police. Ça vous indique comme journaliste et pas comme un militant. Voilà. Donc, ça vous protège. C'est un outil qui vous protège à tous les sens du terme. C'est surtout ça qu'il faut défendre. Et aujourd'hui, ce statut, il est un petit peu attaqué. Sur la presse, on n'est pas tellement sur le statut d'intermittent parce que c'est un statut qui est assez particulier, qui ne correspond pas forcément à la presse. En revanche, il faut vraiment défendre le statut de la carte de presse qui vraiment protège les pigistes.
Alors pour conclure, j'aimerais vous poser une question assez simple. Est-ce que vous vous baladez toujours avec un appareil photo ?
Très majoritairement. Je ne l'ai pas forcément en bandoulière en permanence. Puis maintenant, j'ai un truc super bien qui s'appelle un téléphone, un smartphone, qui fait des super photos et qui permet de faire des images. Mais moi, je ne suis pas... Alors, ça dépend de chaque photographe. Il y a des photographes qui ont tout le temps un appareil photo. Ils sont tout le temps disponibles à faire des images. Moi, je ne suis pas du tout là-dedans. J'ai besoin d'être dans une construction de sujet, dans une construction d'un reportage, pour être disponible aux images. Voilà, quand j'accompagne mes enfants quelque part, ou que je suis en moto, ou que je me balade dans la rue, en allant d'un rendez-vous à un autre, je ne suis pas forcément disponible à la production d'images. Voilà. Donc je n'ai pas forcément un appareil photo tout le temps sur moi, en tout cas disponible. Mais quand je fais des photos, je suis totalement concentré sur cette production d'images-là.
Eh bien, merci beaucoup, Sébastien Calvé, d'avoir participé au deuxième épisode du podcast Négatif.
Merci à vous.
Négatif, c'est aussi un site internet, négatif.co, avec des articles qui complètent le podcast, extraits des travaux de l'invité, liens vers le reste de son travail ou textes pour approfondir la thématique de l'épisode. Vous pouvez vous abonner sur les réseaux sociaux ainsi que sur iTunes, Spotify, YouTube ou encore Google Podcast pour ne pas manquer le prochain épisode. À bientôt !